RCF.
Excellente journée, c'est une journée qui se termine tout de même puisqu'il est 18h10. Nous retrouvons le 18-19 en région. Jean-Pierre Benoît, Alexis Claudretz.
h 19h, c'est en direct avec RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous.
Alors c'est vrai que nous avons des stagiaires qui sont avec nous, qu'on allons entendre peut-être aujourd'hui.
Effectivement, Mathéo Hardy qui nous accompagne. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
On l'entendra tout à l'heure à l'occasion du journal régional et plus particulièrement de la météo. Nous avons également Manon Bréval. Elle ne nous a rien préparé en particulier, mais si elle souhaite intervenir à tout moment, elle lève la main et on lui donne la parole. Bonsoir Manon.
Bonsoir.
Et puis Manon, tu es là encore pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Tu auras sans doute l'occasion encore de t'exprimer sur l'antenne de RCF.
Mais bien évidemment, et avec plaisir.
Jean-Pierre, nos auditeurs sont certainement très impatients de découvrir le programme de ce magazine régional. Mais avant cela, il y a une actualité diocésaine qui est venue bouleverser la journée.
Oui, c'est le Vatican qui a annoncé ce midi la nomination par le pape François de Mgr François Touvet au poste d'évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon, aux côtés de l'évêque titulaire, Mgr Dominique Ray. On aura l'occasion, bien sûr, largement d'y revenir dans ce journal. Alors permettez-nous, au nom de toute l'équipe ici à Reims, de remercier en particulier Mgr Touvet pour ses années passées dans notre région. Nous avons pu apprécier ses qualités, disponibilité pour RCF, pour le 18-19, sa présence et son écoute attentive des personnes, sa volonté ouverte, soutenue par l'esprit, de conduire un peuple à la recherche, comme il le disait lui-même, d'oasis, pour trouver ses lieux où puiser la vérité et pour aller plus loin. Alors nous souhaitons tous, ici avec l'équipe de RCF à Reims, à Mgr François Touvet, une totale réussite dans son nouveau ministère, sous le signe de la foi et de l'espérance. Et il faut dire, Alexis, qu'au bord de la Méditerranée, au cœur d'une base navale, en excellent marin, familier des coups de vent, Mgr François Touvet ne devrait pas être dépaysé dans un lieu où la terre, l'eau et le ciel se rencontrent. Merci Mgr François Touvet.
Et merci à vous Jean-Pierre pour ce témoignage. Vous l'avez dit, on aura l'occasion d'y revenir à l'intérieur du journal régional à 18h30. On y reviendra également largement jeudi soir avec Mgr François Touvet lui-même qui sera en direct depuis les studios de RCF Cœur de Champagne pour une émission spéciale Jean-Pierre.
On aura l'occasion bien sûr de le retrouver.
Au reste du programme, ce soir, Chartres, les divers pèlerinages, c'est un nouveau numéro de Mémoire chrétienne proposé par Jean-François Boulanger. On le retrouve d'ici quelques secondes. Un maire qui vous parle, on ne change pas toutes les habitudes non plus ce mardi, Jean-Pierre.
Effectivement, un maire qui nous parle aujourd'hui avec, évidemment, chaque jour, un maire des Ardennes et un maire de la région de Reims. Ce soir, c'est Dominique Potard, le maire de Besanne.
Vous le savez, l'actualité sur les ondes de RCF, c'est le radiodon. Un nouveau témoignage d'auditeur est à retrouver ce soir, donateurs. C'est un couple, Francine et Francis, leur témoignage fait chaud au cœur, puisqu'ils nous disent que s'ils viennent de fêter leurs 50 ans de mariage récemment, c'est aussi en partie grâce à RCF qui les accompagne au quotidien. Et ça, c'est vraiment un témoignage puissant qui donne les frissons. Jean-Pierre, Virginie Guérin sera là pour nous parler de la mobilisation contre les violences faites aux femmes. La journée internationale, c'est d'ici quelques jours, d'ici la fin de semaine. Et puis nous serons en toute fin d'édition avec Patrick Faustier, le vice-président d'Ardennes Métropole en charge des finances. C'est des questions d'économie.
Absolument, Patrick Faustier qui mettra un coup de projecteur sur deux ou trois réussites qui ont eu lieu depuis trois semaines dans la région de Charleville-Mézières.
À 18h14, comme d'habitude, ce mardi, on débute par la chronique. Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Ça fait quelques semaines que l'on évoque le pèlerinage de Chartres. Aujourd'hui, on a encore quelques informations à donner. Ça va être une sorte de chronique pêle-mêle de l'ensemble des informations qui ne pouvaient pas entrer dans les chroniques précédentes, j'allais dire.
C'est un peu cela, hein. En tout cas, on va parler de deux pèlerinages importants parce qu'on ne peut pas prétendre à un inventaire exhaustif.
Le pèlerinage à Chartres a pris des formes différentes, donc, selon les époques et les circonstances. Vous avez évoqué les plus connus de ces pèlerinages, de celui de Peggy au pèlerinage de chrétienté, en passant par le pèlerinage étudiant. Vous venez de le dire en quelque sorte, donc on connaît la réponse, mais y a-t-il d'autres pèlerinages de Chartres ?
Oui, il y en a deux, principalement, hein, que je vais évoquer. Le pèlerinage le plus connu, c'est le pèlerinage de tradition, qui est organisé par la fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Mais il y a aussi un pèlerinage beaucoup moins connu, c'est celui des Tamouls.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, fait, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est la fraternité Saint-Pie-X afin que nous comprenions le rapport qu'elle entretient avec la ville de Chartres?
Alors, on va passer très rapidement sur ce point parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les taboules, entre autres choses. La fraternité sacerdotale Saint-Pie-X a été fondée par Monseigneur Lefebvre, donc qui a rompu avec l'Église en 1976 lorsqu'il a ordonné 13 prêtres sans l'accord de la hiérarchie. Rappelons qu'il était hostile à Vatican II et qu'il maintenait la messe traditionnelle. Ça lui vaut d'être suspendu à Divinis. Et un peu plus tard, donc en 1989, il est frappé d'excommunication pour avoir ordonné 4 évêques sans l'autorisation du pape.
Quel est le rapport avec le pèlerinage de Chartres? Parce que malgré ces éléments, ça nous paraît un petit peu éloigné tout de même.
Bien sûr, mais justement, les partisans de Mgr Lefebvre participaient à ce qu'on a appelé le pèlerinage de chrétienté, auquel nous avons consacré une émission. Et lorsqu'il y a rupture avec Rome en 1989, eh bien, à ce moment-là, se crée un pèlerinage intégriste, si l'on peut dire, celui de la fraternité Saint-Pie-X, et cette dernière donc va organiser son propre pèlerinage.
Quelle est sa fréquentation?
Alors, selon les codes républicains de Chartres, qui relate le dernier qui est parti de Chartres donc récemment, donc en 2023, entre 4500 et 5000 pèlerins sont réunis, donc au moment du pèlerinage, et selon les codes républicains, effectivement, on arrive à un total de 6000 participants à l'arrivée de Paris, qui se fait donc depuis le carrefour des Cascades du Bois de Boulogne jusqu'à la place Vauban, où sera célébrée la messe de clôture de pèlerinage au pied de la cathédrale Saint-Louis des Invalides.
Vous avez évoqué un pèlerinage tamoul également.
Alors oui, ça c'est plus original, effectivement. Quelques mots d'abord sur les tamouls. Les tamouls vivent majoritairement dans le sud-est de l'Inde, dans l'état de Tamil Nadu et dans le territoire de Pondichéry. Mais il y a aussi une importante diaspora tamoule, d'abord de l'autre côté dans l'île de Sri Lanka, jadis Ceylan, où les tamouls étaient venus travailler dans les plantations de thé à l'époque coloniale. Il y a aussi des tamouls à Singapour, il y en a à La Réunion, 220 000 à peu près, dans l'île Maurice, dans les Émirats, travailleurs immigrés 350 000, en Arabie Saoudite 400 000, au Canada et en France métropolitaine où ils sont 125 000. Les tamouls sont principalement hindous, mais ils comptent dans leur rang d'importantes minorités chrétiennes, 5%, et musulmane 6%.
Quelques explications tout de même, quelles sont les caractéristiques de ces tamouls de France?
Alors ils sont venus au moment de la guerre civile qui s'est déroulée dans le pays entre justement la minorité tamoule et les Singalais, c'est-à-dire les autochtones. Les tamouls ont d'abord cherché refuge en Grande-Bretagne et dans les pays anglo-saxons, comme par exemple le Canada que je viens de citer. Mais parce que la Grande-Bretagne se ferme, ils se dirigent vers la France, et dès 1999, la France accueille des tamouls en grand nombre, elle devient la deuxième terre d'asile pour cette population après l'Union indienne. Et au sein de cette migration, on distingue deux phases. La première, c'est les migrants des années 70-80 qui sont des propriétaires terriens, généralement hindous. Et puis à partir des années 90-2000, des gens qui viennent du milieu urbain de la péninsule de Jaffna et qui sont principalement catholiques. Et c'est la raison pour laquelle les catholiques représentent environ un tiers des réfugiés tamouls. Les Sri Lankais de confession catholique disposent d'ailleurs de leur aumônerie au sein du diocèse de Paris et de leur église dans le 10e arrondissement. Et le prêtre tamoulophone qui les dirige se rend régulièrement dans les églises des villes de banlieue où les tamouls résident afin de célébrer des messes en langue tamoule devant une assistance catholique, mais aussi hindouiste, parce que les hindouistes acceptent le culte de la Vierge Marie. Et la communauté tamoule se retrouve souvent dans des pèlerinages en région Paris.
Est-ce que vous avez, Jean-François Boulanger, quelques exemples pour illustrer ces propos?
Oui, alors j'en ai deux essentiellement. Le premier, c'est le pèlerinage de Bailly en France, qui rassemble en 2022 8000 tamouls le jour de l'Assomption, et donc qui sort à la Vierge de Notre-Dame de France, mais qui pour les tamouls rappelle la Vierge Lankani, qui est une ville du sud de l'Inde, un pèlerinage très célèbre en Inde, surnommé Lourdes de l'Orient, parce que Dion de Pellerin se rend chaque année dans ce pèlerinage et que c'est un lieu d'apparition mariale parmi les plus fréquentés et où il y a eu effectivement des miracles. Et puis, c'est cette Vierge de Vélancani que l'on honore dans un deuxième pèlerinage en région parisienne, qui est celui de Livry-sur-Marne. Donc, il est organisé pour la première fois en septembre 2022. Et donc, il y a effectivement 350 tamouls qui se sont réunis dans cette ville de Livry-sur-Marne.
Donc, des pèlerinages en l'honneur de la Vierge en région parisienne, mais Chartres.
Alors, Chartres est un endroit effectivement où les tamouls se rendent. Ils se rendent aussi à Lourdes, bien sûr, parce que ça leur rappelle encore une fois leur pèlerinage. pèlerinage. Simplement, Lourdes, c'est quand même éloigné de Paris, donc Chartres est davantage à portée de pèlerins, si vous me permettez cette expression.
Qui organise ce pèlerinage des Tamouls ?
Alors, c'est l'aumônerie des Sri Lankais de France qui nous explique que ce pèlerinage est né vers 1995. Il s'agit pour la majorité des pèlerins de réfugiés catholiques ayant fui un pays en proie à la guerre civile, je vous l'ai expliqué. Et donc, ce pèlerinage s'est tourné vers Chartres au vu de l'attachement continuel que manifestent les Tamouls au cours de l'année à Notre-Dame du Pilier, au sein de la cathédrale de Chartres, qu'on appelle aussi la Vierge Noire, en qui ils voient la possibilité de guérison.
Et si on fait un petit focus en 2023, Jean-François Boulanger, où en est ce pèlerinage aujourd'hui ?
Eh bien, en 2023, il a accueilli à peu près 3000 pèlerins qui arrivent habillés de leur tenue traditionnelle, qui viennent de Paris et même de l'étranger. Si vous voulez, c'est un pèlerinage qui arrive par car et qui se dirige vers Chartres, et puis il termine le trajet à pied. Et donc l'après-midi débute par la prière du chapelet, avant que la messe ne soit donnée, aux alentours de 15h30, en langue tamoule. Et ensuite, un cortège portant Notre-Dame du Pilier, cette fameuse Vierge Noire, décorée de fleurs pour l'occasion, déambule devant les pèlerins qui la touchent en priant. La cérémonie se termine par une marche organisée autour de la cathédrale.
Eh bien, merci Jean-François Boulanger de nous avoir emmenés aujourd'hui et ces dernières semaines du côté de Chartres. On rappelle que si nos auditeurs nous prennent en cours de route, qu'ils n'hésitent pas à retrouver les chroniques antérieures dans la rubrique programme sur le site rcf.fr en recherchant l'émission Mémoire chrétienne. À très bientôt, Jean-François Boulanger.
À très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Passage de relais dans ce magazine régional, on ne bouleverse pas les habitudes du mardi. Après Jean-François Boulanger, la suite du programme, c'est un maire qui vous parle, qui nous parle. Dominique Potard, maire de Besançon, s'entretient avec Jean-Pierre.
Dominique Potard, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que vous êtes maire de Besançon. Alors quand on parle Besançon, on va en parler, on pense bien sûr à la clinique aujourd'hui. Mais Besançon, c'est combien d'habitants en fait, Dominique Potard ?
Alors officiellement, c'est 3500 habitants, mais c'est bien loin de la réalité, puisqu'on est environ 5000 et que d'ici 2027, compte tenu des logements à livrer, on devrait être plus de 6000 habitants.
En ce moment, Besançon est en train de se transformer. C'est incroyable. On a connu des champs il y a quelques années. Mais là, bon, d'abord, la clinique de Besançon, c'est la première de France.
Ouais, la clinique de Besançon, la première de France, elle continue encore à se développer, puisque bah, elle attire, on va dire, les patients de toute la région élargie, hein, de la Meuse, des Ardennes, de l'Aisne, et voire de région parisienne, et de la Marne, bien sûr. Donc c'est quelque chose qui est une attractivité très très intéressante pour la commune, en plus de la gare TGV.
La gare TGV, la clinique, et puis aussi les sièges de très nombreuses entreprises qui ont pignon sur rue, à la fois régionalement, mais aussi nationalement, hein, faut le dire.
Oui, oui, puisqu'on a des grosses, grosses entreprises. On a Cristal Union, on a Mazars, on a Frey, qui est quand même dans l'immobilier international. Ouais, on a des grosses, grosses entreprises qui ont choisi Besançon pour son positionnement au niveau des nœuds interroutiers et ferroviaires, et puis bah, pour une lisibilité par rapport au Grand Reims et à la région Grand Est.
Et à côté de tout cela, les entreprises, les cliniques, il y a aussi des habitations. Il y a beaucoup actuellement de création de logements à Besançon, de logements neufs, enfin c'est assez exceptionnel aussi.
Oui, alors on est vraiment dans une expansion démographique exceptionnelle, on peut dire, voilà, je vais reprendre votre mot exceptionnel. Bon, alors ça va quand même se calmer un petit peu, hein, puisqu'il faut qu'on arrive à absorber au niveau des services toute cette nouvelle population, mais il est encore prévu une livraison de 700 logements dans les 3 ans à venir, quoi.
Mais alors comment on reçoit des maires tous les jours, qui sont d'ailleurs très, très, très gentils, très sympathiques, qui nous expliquent leur commune, parfois de 150, 160 habitants, 200 habitants. La population n'évolue pas beaucoup. Mais vous, à Besançon, en tant que maire, vous vous trouvez dans une situation d'une commune en pleine expansion. Alors comment faites-vous, monsieur le maire, parce que vous devez être un peu partout en même temps?
Alors, un peu partout en même temps, voilà, il faut penser à combler les retards qui ont été pris, hein, voilà, faut appeler un chat un chat, et puis ben, anticiper sur les nouveaux besoins qu'il va falloir satisfaire, parce que avoir de la population, c'est bien, mais on doit mettre en face les services en adéquation. C'est notamment pour ça qu'on est en train de construire une seconde école pour pouvoir répartir correctement les élèves sur l'ensemble du territoire.
Et vous, Dominique Potard, vous êtes maire depuis combien de temps de Besançon ?
Depuis les dernières élections, depuis 2020, en plein Covid, je suis arrivé aux commandes de cette commune magnifique.
Alors, c'est tout de même pas facile, on peut vous saluer une deuxième fois, d'arriver à la tête d'une commune comme Besançon en pleine expansion, en pleine épidémie. Ça n'a pas dû être facile non plus à gérer.
Non, ça n'a pas été facile. C'est pas le meilleur moyen de commencer à appréhender les difficultés d'une commune et de sa population. Non, ça n'a pas été simple. Mais quand on décide de prendre la charge d'une commune, forcément, on s'attend bien à ce que ça soit pas tous les jours tout à fait rose, quoi.
On se rend compte quand on arrive dans Besançon, quand on vient de, qu'on appelle la voie du Rouillard, puis qu'on arrive vers la gare TGV, on s'aperçoit aussi que il y a eu de la restauration des commerce, parce que toute cette population qui travaille, il faut bien qu'elle déjeune. Est-ce qu'on arrive quand même dans des communes nouvelles comme ça à créer un centre de vie quand même un peu différent?
Alors, c'est une de nos préoccupations au quotidien. On a la chance d'avoir le Courlanges, qui est une zone tout à fait piétonne, où il y a un certain nombre de commerces qui s'y sont installés. Et c'est aussi un de nos défis à nous, c'est d'essayer de le faire vivre au maximum pour que ce soit un peu un centre de vie de tous les habitants et de rassemblement. C'est notamment sur cette place qu'on a un marché hebdomadaire tous les jeudis soirs.
Alors, quels sont, Dominique Potard, alors des projets, vous devez en avoir plein dans les tiroirs et dans les cartons, mais quels sont ceux qui vous tiennent particulièrement à cœur en ce moment, qui sont en cours ou qui vont démarrer dans quelques jours ou dans quelques semaines?
Alors, celui qui nous tient particulièrement à cœur, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est cette seconde école pour laquelle on espère une ouverture pour la rentrée 2024, hein, puisque il faut savoir que depuis quelques années, on a entre une et deux classes supplémentaires chaque année, donc il faut y faire face. Après, on a bien estimé les besoins pour la commune, donc on sait qu'on a besoin d'un gymnase, on sait qu'on aurait besoin d'un terrain en synthétique pour le stade de foot, on sait qu'on a besoin d'un troisième cours de tennis, on a besoin d'agrandir les espaces associatifs. Donc tout ça, c'est un peu dans les cartons. On essaye d'avancer sur ces projets tranquillement et sereinement parce que, évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Par contre, dans les projets concrets qui vont arriver, on va mettre des panneaux solaires, des panneaux photovoltaïques sur les toits de nos services techniques. Et avec ça, l'électricité produite pourra nous permettre d'alimenter dans la journée tous nos bâtiments communaux.
Alors ça, c'est une belle innovation, Dominique Potard. Et puis aussi, on a l'impression dans ces villes nouvelles que on a quand même une autre manière de voir l'habitat, quoi. On voit bien qu'on est dans un monde un peu nouveau, quoi. C'est vrai, par rapport aux communes traditionnelles où on se retrouve avec des maisons classiques, etc. Là, c'est autre chose.
Alors, il faut savoir que nous, on a quand même des lotissements qui sont, on va dire, classiques, hein, voilà. Mais par contre, on a des immeubles collectifs qui, notamment, que ce soit de l'accession à la propriété ou que ce soit du locatif, hein, qui sont tous avec des balcons, avec un petit endroit où les gens puissent un peu s'aérer et profiter de l'air ambiant. Donc, parce que ça, c'est une demande forte, notamment après le Covid, hein, faut l'avouer. Et puis, puisqu'on parle d'habitation, on va avoir sur Besançon une première française, sinon européenne. On va avoir un immeuble de plusieurs étages qui va être construit avec une imprimante 3D. C'est-à-dire que le béton va être coulé par une imprimante.
Mais ça, c'est une innovation exceptionnelle, ça, Dominique Potard. J'en ai jamais entendu parler pour ma part.
Ah ben non, c'est tout à fait, je vous dis, c'est une grande première, c'est pour ça qu'il y a des tests qui sont faits, il y a des validations.
En tout cas, dans le département de la Marne, hein, je parle à notre niveau.
Non, c'est au niveau français, voire européen, c'est une première. C'est pour ça qu'on a fait une conférence internationale à ce sujet, parce que forcément, en France et à l'étranger, les gens sont très intéressés de voir concrétiser cette grande première.
Oui, parce que quand vous dites en béton, ça veut dire que l'immeuble lui-même, on n'imagine pas trop, hein, il est construit comme cela.
Ouais, c'est comme une imprimante. L'imprimante, au lieu de couler de l'encre, pour ceux qui connaissent un petit peu les imprimantes 3D où on coule du plastique, là, au lieu de couler du plastique, on va couler du béton.
Oui, mais enfin, quand on est, Dominique Potard, quand on voit les petites imprimantes qui font du 3D, c'est parfois des choses de 20, 30, 40, 50 centimètres. Mais là, vous êtes en train de nous parler d'une tour. Combien d'étages?
Alors, c'est prévu de mémoire deux étages, enfin trois étages avec le rez-de-chaussée.
Donc, c'est quand même autre chose, c'est une autre dimension.
Tout à fait. C'est pour ça que c'est une première en France, voire en Europe.
Dominique Potard, on a tellement de choses à nous dire que je vous proposerai prochainement, alors que normalement on va faire bien sûr circuler, comme on dit entre guillemets, plusieurs maires. Là, on a tellement de choses à dire à propos de Bézanne que je vous proposerai dans quelques semaines, dans 3 semaines peut-être, de revenir. Parce qu'on n'est pas arrivé au bout, et nous on est au bout de notre émission. Simplement, je vous pose la question, comme je le fais avec tous les maires, êtes-vous un maire heureux, Dominique Potard? Oui, quand même.
Oui. De toute façon, quand on choisit d'assumer ses fonctions, il faut regarder le bon côté des choses, et voilà, essayer de faire du bien aux gens, essayer d'offrir des services, et enfin, construire une école, c'est quand même des projets valorisants, c'est quand même, voilà, ça nous donne de la satisfaction, et voilà, si on n'est pas heureux, se lever le matin pour venir au bureau, ça serait compliqué.
Merci Dominique Potard d'avoir été avec nous, et à bientôt sur RCF. Eh bien voilà, c'est 18h30, si je ne m'abuse, on regarde les pendules, et 18h30, c'est l'heure du journal régional avec Alexis Claudretz qui est avec nous en direct.
Avec les titres de ce mardi 21 novembre 2023, Monseigneur François Touvet a été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon ce mardi par le pape François. Réaction. Le Secours catholique Marne-Ardenne n'en finit plus d'être sollicité. L'inflation pousse de plus en plus de personnes vers la précarité. Le rapport statistique annuel est tombé récemment. Décryptage.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Monseigneur François Touvet quitte le diocèse de Châlons en direction du Var. Christopher Fausten.
Nommé évêque de Châlons-Champagne le 23 décembre 2015, puis ordonné à la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne le 28 février 2016, le natif de Paris a été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon par le pape François ce mardi 21 novembre. Il partagera cette charge avec Monseigneur Dominique Ray, qui reste évêque du diocèse varois, un diocèse en crise depuis plusieurs mois. Monseigneur François Touvet.
Je reçois cette nouvelle mission comme un signe de confiance de la part du pape pour venir servir une église diocésaine, celle de Fréjus-Toulon, qui traverse une crise très difficile depuis quelques mois. Je suis serein, conscient de la mission qui m'attend, je suis réaliste devant la situation, et en même temps, j'éprouve de la joie spirituelle à répondre une nouvelle fois à l'appel du Seigneur, en acceptant d'abandonner ma propre volonté ou mes propres projets. Et du coup, c'est un vrai arrachement à vivre en partant de la Champagne, en quittant le diocèse de Châlons, pour lequel j'ai donné toute ma vie, tout mon cœur, toute mon énergie, toute ma passion évangélique, toute l'ardeur de ma foi. Donc il me faut quitter rapidement la Champagne pour rejoindre Fréjus-Toulon. Voilà tous ces sentiments un peu mêlés.
Monseigneur François Touvet a bien sûr une pensée pour les diocésains de Châlons.
Ça fait presque 8 ans que j'ai été nommé évêque de Châlons et j'ai essayé pendant ces 8 années de développer un projet missionnaire en réponse à la demande du pape François qui invite toutes les communautés à vivre la transformation pastorale et missionnaire. Alors je souhaite que l'église de Châlons poursuive sur ce chemin. Je sais qu'il y a des résistances. Je sais qu'il y a pu avoir des incompréhensions, mais je crois vraiment que l'urgence est là. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions en régime de chrétienté. Nous ne pouvons pas tout reproduire ce qui a été fait avant. Mais il nous faut inventer des chemins nouveaux pour annoncer toujours le même évangile. Donc je souhaite vraiment que l'église de Châlons poursuive dans ce sens, avec le souhait de partager le cœur de la foi, le kérigme, on en parle beaucoup en ce moment. Et en même temps, c'est une invitation aussi à renforcer toujours les liens de fraternité. Je connais les richesses et aussi les pauvretés de l'église de Châlons, et il me semble que le point d'appui, ce sera toujours et encore la fraternité, l'amitié, la charité entre les uns et les autres, et en accueillant aussi, en mettant au cœur de la mission les personnes les plus fragiles, les plus pauvres, de façon à laisser rayonner le visage de Jésus au milieu de la communauté.
Monseigneur François Touvet sera installé le 10 décembre prochain, 16h, en la cathédrale Notre-Dame de la Cède de Toulon. Une messe d'action de grâce avec Monseigneur François Touvet sera donnée le dimanche 3 décembre à 16h en la cathédrale Saint-Étienne de Châlons-Champagne.
Monseigneur François Touvet qui sera également notre invité ce jeudi dans le 18-19 en Champagne-Ardenne, émission dans laquelle il s'est beaucoup investi, Jean-Pierre.
Absolument. Et pour le 18-19, au nom de l'équipe rémoise, mais aussi chalonnaise, dans les diocèses de Reims et de Châlons en Champagne, nous tenons vivement à remercier Monseigneur François Touvet pour ses années passées dans notre région. Nous avons pu apprécier ses qualités, sa disponibilité, surtout pour RCF, pour le 18-19, sa présence et son écoute attentive des personnes, sa volonté ouverte, soutenue par l'esprit, et de conduire un peuple à la recherche d'oasis, il l'a dit dans son projet missionnaire. Alors, c'est l'occasion pour nous de souhaiter à Monseigneur Touvet une totale réussite dans son nouveau ministère, sous le signe de la foi et de l'espérance. Et alors, vous voyez, Alexis, il s'en va là-bas, au bord de la Méditerranée, au cœur d'une base navale, en excellent marin. Vous savez, il est familier des coups de vent, Monseigneur François Touvet. Il ne devrait pas être dépaysé dans un lieu où la terre, l'eau et le ciel se rencontrent. Merci, Monseigneur Touvet.
18h35, hier soir, la mission Coteau, Maison et Cave de Champagne organisait son traditionnel dîner en faveur de la mission UNESCO au Caveau Castelnau à Reims. Le parrain de cette édition 2023 n'était autre que Franck Leroy, le président de la région Grand Est, qui a décidé que les dons récoltés serviraient à la restauration de la basilique Saint-Remi, financée par la ville de Reims, la Grande Région et la Fondation du Patrimoine. Estimation du coût des travaux, 60 millions d'euros. L'importante somme de 36 000 euros récoltée hier soir fait office de goutte d'eau donc, mais est un premier pas. L'archevêque du diocèse de Reims et des Ardennes, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, a participé à ce temps fort. Coup d'envoi du Charabia Festival ce mardi jusqu'au 1er décembre. Le festival local porté par l'artiste rémois Barcela va particulièrement mettre à l'honneur la chanson française. Pomme, Hervé ou encore Cali seront présents. C'est d'ailleurs Pomme qui ouvre la danse ce soir à 20h à la cartonnerie. Mercredi, c'est Barcela lui-même qui montera sur scène devant une salle comble. Toute la programmation et les réservations possibles sur le site du Charabia Festival. La semaine dernière, le Secours catholique a sorti son rapport statistique annuel, d'abord au niveau national, puis au niveau local. Un état de la pauvreté en France est fait par rapport aux données 2022. Le président du Secours catholique Marne-Ardenne, Jean-Louis Milot, dresse le bilan.
Les tendances, malheureusement, c'est une aggravation de la pauvreté, de la précarité, avec des ressources qui diminuent au niveau des ménages, et des charges qui augmentent, donc notamment au niveau de l'alimentation et de l'énergie. Au niveau national, on fait un constat de presque 7% au niveau de l'alimentation, et au niveau de l'énergie, plus 23%. Donc ça impacte directement les budgets familiaux qui sont déjà bien fragiles. Donc on note un aggravement de la précarité, et en même temps, donc des personnes qui, ce qu'on appelle les non-recours aux droits, parce que c'est compliqué, ils ne font pas les démarches pour bénéficier d'aides auxquelles ils auraient droit, donc l'APL, le RSA. Il y a un effet ciseau, donc à la fois moins de recettes et plus de dépenses. Donc voilà, on touche vraiment de plus en plus de familles qui sont dans une pauvreté extrême.
Inutile de vous assommer avec des statistiques qui symbolisent la pauvreté de la population. Vous pouvez les consulter vous-même sur le site dept.statistiques@secours-catholique.org. Cette année, l'accent est particulièrement mis sur les femmes en première ligne.
Le focus qu'il y a eu cette année sur le rapport STAT, c'était par rapport à la précarité chez les femmes, où là, on constate globalement une augmentation. Donc, il n'y a pas de scoop là-dessus, mais par rapport à la cellule familiale qui est en difficulté, les ruptures familiales qui apportent des soucis, et généralement, c'est les femmes qui sont en première ligne au niveau éducation des enfants. Il y a des femmes qui cumulent tout, qui cumulent des emplois précaires, qui cumulent des difficultés, des charges liées à l'éducation. Donc, au niveau du public féminin, c'est vraiment un public qui est en augmentation.
Pour la délégation Marne-Ardenne, ce sont 31 antennes, 9 salariés et près de 600 bénévoles répartis sur les deux départements qui accompagnent des bénéficiaires. En 2022, plus de 3500 personnes en situation de précarité sont venues rencontrer le Secours catholique. 18h38, en fin de journal, on retrouve la météo. Ce soir, avec notre stagiaire à la rédaction, Mathéo Hardy. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir.
À quel temps faut-il s'attendre pour demain mercredi dans la Champagne-Ardenne ?
Alors pour ce mercredi, sera le jour le plus ensoleillé de la semaine. Attendez-vous dans les Ardennes à un soleil continu avec le matin 4 degrés à Charleville et 8 degrés à Rethel l'après-midi. Le ressenti reste froid malgré le beau soleil. Pensez à mettre votre manteau. Dans la Marne, le matin, les thermomètres afficheront 5 degrés à Reims et 7 degrés à Épernay l'après-midi. Dans l'aube, il y aura un peu de nuages en matinée, mais le soleil reviendra à partir de midi. Il y aura 9 degrés à la Troie le matin et 8 degrés l'après-midi à Romilly-sur-Seine. Enfin, en Haute-Marne, le temps sera similaire à celui de l'aube le matin. L'après-midi, le soleil reviendra avec 7 degrés à Chaumont. Demain, nous fêterons les Céciles.
Merci Mathéo, on se joint à vous pour souhaiter en avance une très bonne fête à toutes les Céciles. On vous retrouve demain pour d'autres tendances. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue tout de suite. On parle du Radiodon avec un couple d'auditeurs en ligne avec nous.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Francine, Francis, bonjour.
Bonjour.
Si vous êtes avec nous ce mardi, c'est parce que vous êtes des fidèles donateurs de RCF, des fidèles auditeurs aussi, dans un premier temps. On a envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui vous plaît lorsque vous écoutez RCF, Francine et Francis?
Ben, c'est à peu près tout, en fin de compte, c'est difficile à dire. J'ai été surtout marqué parce que j'ai écouté RCF pendant une douzaine d'années en allant travailler. Et ça me permettait d'écouter en particulier l'évangile et les commentaires. Et ça m'a beaucoup apporté. Et puis d'autres émissions aussi qui sont particulièrement intéressantes.
Le matin au réveil, on écoute l'évangile et les commentaires. Et ça nous permet d'échanger en couple. Donc c'est très riche. On trouve que RCF nous a aidé à faire grandir notre foi et sans doute notre amour aussi.
C'est une radio qui vous accompagne vraiment au quotidien, dans la façon dont vous l'expliquez.
Elle nous guide sur le chemin de notre vie. Chemin, c'est un mot important pour nous parce qu'on a fait tout le chemin de Compostelle. Et c'est vrai qu'RCF nous a toujours accompagnés. Pas toute la journée forcément, mais c'est le matin au réveil, c'est dans la cuisine, c'est dans la voiture. Donc c'est quand même souvent dans la journée et c'est très très riche.
Mais dites-moi Francine, lorsque vous me dites que l'on vous accompagne dans la voiture, on vous accompagne dans votre cuisine, on est presque intrusif sur RCF, on est dans votre quotidien, dans votre maison en permanence.
Ben oui, mais les invités sont très intéressants, hein, que ce soit les thèmes de psychologie, éducation, santé naturelle, jardinage bio, théologie, économie aussi, les commentaires aussi du dimanche matin qui sont divers et très 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 intéressants.
Le dimanche matin, par exemple, il y a la découverte de l'évangile et puis ensuite il y a l'évangile commenté à 8h. Il y en a encore un après, je ne sais plus trop par qui. Et puis après, on va écouter notre curé, voir ce qu'il raconte. C'est marrant parce que c'est jamais, jamais, jamais la même chose.
Ah non, c'est une interprétation différente, mais c'est ça qui est intéressant. Et moi, je conseille à tout le monde, tous ceux qui en ont envie, d'écouter RCF parce que déjà une actualité sans publicité qui nous semble, on l'espère, authentique, beaucoup moins pessimiste et on apprécie aussi le respect.
Oui, c'est même plus que pas pessimiste, c'est optimiste, c'est ça qui est important, je crois.
Eh bien, un grand merci pour votre témoignage. On a tout de même une dernière question pour vous, Francine et Francis. Au-delà d'être des auditeurs réguliers et fidèles de RCF, vous faites un geste bien plus fort. Vous êtes des donateurs réguliers de notre station. Lorsque l'on arrive à donner, à soutenir une radio, ça veut dire vraiment qu'elle compte pour vous dans votre vie.
Oui, on était donateurs seulement en fin d'année et depuis un an, je crois, on donne...
Oui. On donne au moment du carême aussi.
Voilà, on donne deux fois par an. Et on préfère donner et avoir cette qualité au niveau, comme je le disais, des actualités, etc. Pour nous, il n'y a pas de question à se poser et c'est volontairement qu'on donne et on encourage tout le monde à le faire pour que cette radio puisse vivre dans de bonnes conditions.
Et avec le retour fiscal, il faut donner trois fois plus.
Eh bien voilà, ça c'est le mot juste, Francis, merci beaucoup. En tout cas, un grand merci pour votre fidélité, pour votre générosité, Francis et Francine. Et puis on vous dit à très bientôt à travers les ondes.
Bah écoutez, merci. On a fêté nos 50 ans de mariage et je crois qu'RCF, il a peut-être mis sa petite pierre dans cette réalisation, dans ce vécu.
Félicitations pour ces 50 ans de mariage et on est très heureux de pouvoir vous accompagner au quotidien. À bientôt, Francine et Francis.
Merci.
Et nous, on continue de parler du Radiodon à 18h43 très rapidement avec Manon Bréval, notre stagiaire à la rédaction, notamment du côté de la communication, puisque sa section, elle est en première au lycée Saint-Jean-Baptiste de La Salle, en communication, médias, plurivisuel, médias, je ne sais jamais dans quel sens ça va.
Je fais un bac pro artisanat et métier d'art, option communication visuelle plurimédia.
Voilà, là, c'est très précis. Et avec Kylian, qui est un de nos autres stagiaires à la rédaction, dont vous connaissez la voix également, il participe notamment à la création de nombreux visuels. Et pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, Facebook, AterCF France Ardennes, Twitter, X anciennement Twitter, AterCFRA et Instagram, vous avez préparé ce qu'on appelle des Reels.
Exactement.
Ça consiste en quoi, Manon ?
Alors, des Reels, c'est des vidéos qui sont postées sur Instagram, comme des posts, mais c'est des vidéos plus longues. Donc, on a créé un visuel avec une illustration pour le Radio Don, et chaque jour, c'est une nouvelle personne de la radio qui est illustrée. Donc, un jour, c'est Alexis, un jour, c'est Thierry, un jour, ce sera Fabrice, ensuite, ce sera Jean-Pierre, et ensuite, ce sera moi et Kylian.
Et avec ces illustrations, on colle par-dessus un témoignage qu'on vient d'entendre. Par exemple, Francine et Francis, on en entend un court extrait, 45 secondes, une minute comme ça de témoignage.
Exactement.
Eh bien, pour nos auditeurs, ils n'ont qu'à nous suivre sur les différents réseaux sociaux et ils découvrent toutes vos créations que vous nous proposez pendant ce stage parmi d'autres missions, évidemment. Merci, Manon, vous restez avec nous jusqu'à 19h.
Il faut liker.
Le 18-19 sur RCF.
La joie de donner, la joie de liker, la joie de partager, c'est ça, RCF, c'est ça, l'esprit radio chrétienne francophone. Tout de suite, une rencontre avec Virginie Guérin, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est au micro de Christopher Fausten pour revenir sur les violences faites aux femmes qui demeurent massives malheureusement et qui tuent encore dans notre société.
Depuis 1999, le 25 novembre est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Virginie Guérin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la déléguée départementale Marne aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Merci d'être avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette journée très importante du 25 novembre. Quand on parle de violence, Virginie Guérin, quel type de violence parlons-nous concrètement ?
Alors, s'agissant des violences faites aux femmes, on a tendance à beaucoup penser aux violences au sein du couple, sous différents aspects, les violences physiques, psychologiques, verbales, administratives, financières. Mais j'ai vraiment à cœur, depuis que je suis sur ce poste, de parler des autres violences que peuvent subir les femmes, parce qu'elles sont femmes. On a le harcèlement de rue, que l'on appelle désormais l'outrage sexiste. On a les cyberviolences, notamment avec le déploiement et l'usage des réseaux sociaux, mais aussi l'accès à Internet et aux sites pornographiques qui donne une image très, très complexe de l'éducation à la sexualité quand on est une femme ou un homme. Et on a aussi d'autres violences dont on pense moins, que sont les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés et la prostitution considérée comme une violence faite aux femmes.
Il y a beaucoup de types de violences que vous venez de présenter, notamment le cyberharcèlement. Virginie Guérin, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. On en parle peut-être pas suffisamment et pourtant, c'est quelque chose qui est de plus en plus inquiétant.
Alors, le cyberharcèlement est un axe très fort de la notion du harcèlement qu'on retrouve notamment dans le harcèlement scolaire. On est sur le harcèlement sexuel du fait de l'usage des réseaux sociaux. Les hommes aussi sont concernés par cette violence-là. Quand on dit violence faite aux femmes, il faut entendre aussi violence sexiste et sexuelle. Et ça se déploie de plus en plus. On essaye au niveau national et européen de mettre un cadre de plus en plus contraint pour les fournisseurs de données et les porteurs de réseaux sociaux. Mais c'est quelque chose qui est très complexe, qui va très vite. Et il est nécessaire en tant que parent ou professionnel de sensibiliser plutôt la population jeune principalement concernée et plutôt les filles de tous les risques de ces usages.
Depuis plusieurs années, des dispositifs ont été mis en place afin de répondre justement à cette problématique, d'aider les victimes, de les accompagner, notamment cette plateforme le 3919 lancée depuis quelques années seulement. Mais malheureusement, les violences existent toujours. Virginie Guérin, quelle évolution apercevez-vous aujourd'hui ?
Alors, en 6 ans d'expérience sur ce poste, il est difficile pour moi de comparer au-delà, mais il est clair que certains mouvements, on pense à MeToo ou d'autres mouvements, ont libéré la parole. Après, c'est charge aux professionnels d'encadrer cette libération de la parole et d'accompagner la libération de la parole. Il y a eu le Grenelle contre les violences conjugales en 2019 qui a permis de mettre à plat, de faire un diagnostic à tout échelon géographique des besoins pour les victimes et pour les professionnels, avec notamment le 3919 qui existait déjà avant, mais qui a été accessible depuis 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a aussi un chat que l'on peut utiliser sur arrêtons-les-violences.gouv.fr. Et il y a des dispositifs de protection qui se sont renforcés dans le cadre des parcours judiciaires. Plus de la formation des professionnels, notamment de la police et de la gendarmerie, mais pas que. Donc, il y a eu énormément de choses depuis 2019. Il existait déjà des choses avant, mais il y a eu un renforcement pour accompagner au mieux les victimes.
Virginie Guérin, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes, avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Cette journée du 25 novembre, alors une grande mobilisation dans tout le territoire, notamment dans la Marne, à travers les municipalités, à travers les associations qui luttent justement contre ces violences. Il y a beaucoup de rendez-vous qui se sont déjà déroulés la semaine dernière, Virginie Guérin, mais on va parler forcément des prochains rendez-vous, notamment ce 22 novembre du côté de Vitry-le-François, avec un temps d'échange sur le thème justement des violences.
Oui, effectivement, le 22 novembre, après-midi, à partir de 14h à la médiathèque Albert Camus, il y aura des débats à partir de courts-métrages, portés notamment par la Maison de protection des familles et le Conseil départemental, pour débattre sur les notions de violence conjugale, comme j'ai pu échanger, mais surtout connaître nos droits par rapport aux dispositifs qui existent et par rapport au parcours qu'il faut engager quand on est victime.
Donc le rendez-vous 22 novembre, 14h-16h30, à la médiathèque Albert Camus de Vitry-le-François. L'entrée est bien sûr libre. Autre rendez-vous, toujours à Vitry, cette fois-ci, dans le cadre justement de cette journée, pile poil le 25 novembre, cette marche contre les violences faites aux femmes à Vitry-le-François.
Oui, c'est un événement qui est organisé par le Zonta Club. C'est une association qui œuvre notamment sur les inégalités filles-garçons, femmes-hommes, mais aussi contre les violences faites aux femmes, qui est très présente à Vitry-le-François et qui, comme chaque année, organise cette marche qui sera suivie de ventes de gâteaux au profit de l'association. Et en partenariat avec la ville de Vitry, il y aura même un éclairage des bâtiments de la ville, des bâtiments historiques de la ville en orange, qui est la couleur souhaitée par l'ONU pour promouvoir cette journée-là. Il y aura aussi des stands. Je serai notamment à un stand avec la Maison de protection des familles et le Centre d'information des droits des femmes et des familles pour informer, pour sensibiliser à travers plusieurs outils de communication. Donc ça commence à 14h ou 14h30. 14h30 précisément, jusqu'à 16h pour la marche. C'est une marche de 5 km en espérant qu'il fasse beau, mais ça n'empêche pas. Même s'il pleut, il faut vraiment se mobiliser. Et il y a une participation à la marche de 2 € avec une boisson qui est offerte pour permettre au mieux l'organisation de ce temps fort.
Place d'Armes à Vitry-le-François, donc ce 25 novembre, à partir de 14h30. Le même jour, du côté de Tinqueux, une rencontre avec un auteur d'ouvrage.
Alors, je dirais même une autrice d'ouvrage, qui est Joanne Bertrand, qui a écrit des livres sur le self-défense et qui est instructrice de Krav Maga. Donc, c'est à la médiathèque de Tinqueux. De 10h à midi, l'idée c'est d'échanger avec cette autrice et de comprendre l'intérêt du self-défense quand on est une femme et qu'on se sent peut-être pas suffisamment en sécurité dans certains lieux. Je pense notamment dans la rue, dans un espace public, ça peut arriver. Il y a des gestes d'autodéfense. Alors l'idée c'est pas de se mettre au karaté, au judo et d'avoir une médaille d'or, mais il y a quelques gestes qui peuvent permettre de sauver des vies.
Merci Virginie Guérin depuis Châlons-en-Champagne avec l'ami Christopher Fausten. On rappelle que la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, c'est le 25 novembre prochain.
À Reims,
Châlons, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nous, on termine cette émission avec un invité Carolo Masserien. Patrick Faustier, vice-président d'Ardenne Métropole en charge de l'activité économique, est avec Jean-Pierre Benoît.
Patrick Faustier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'on vous retrouve périodiquement, régulièrement, à peu près toutes les 3 semaines ou une fois par mois, pour faire le point sur l'activité économique du département des Ardennes et surtout sur Ardennes Métropole. Alors, c'est vrai que vous avez plutôt de bonnes nouvelles du côté de Charleville-Mézières. J'ai entendu parler d'implantation de services de renseignement téléphonique. De quoi s'agit-il exactement ?
Eh bien, nous avions candidaté auprès de la Direction générale des finances qui cherchait à dispatcher des emplois, les déconcentrer en province. Nous avions candidaté il y a déjà plusieurs années et nous avions été lauréats de cet appel à candidature, l'un des lauréats puisqu'il y avait plusieurs ensembles qui devaient être déconcentrés en province. Et donc, nous avons accueilli la semaine dernière 43 emplois. Donc, ce sont des emplois de salariés de la Direction générale des finances publiques qui ont pour charge de répondre aux questions des particuliers.
Peut-être que parmi ces emplois, il y en a qui viennent de l'extérieur, mais il y a peut-être aussi des emplois pour des Ardennais ou pour des Carolo-Masseriens ou pour des habitants de la région de Charleville-Mézières, d'Ardennes Métropole.
Bien sûr. Alors, on parle là de déconcentration, et donc dans ces cadres-là, évidemment, la proposition est faite à ceux qui exerçaient cet emploi en région parisienne de venir l'accompagner l'emploi ici dans les Ardennes. Certains le souhaitent et donc ils sont les bienvenus parmi nous, bien sûr, et puis d'autres ne le souhaitent pas et donc par conséquent, évidemment, cela fait des postes qui peuvent être pourvus par des gens de la région.
Et quoi qu'il en soit, même s'ils ne sont pas de la région, ils participent de l'animation économique, ce sont des consommateurs, c'est des personnes peut-être qui vont s'installer à Charleville-Mézières ou dans la région. Bref, ça fait quand même, j'allais dire, une forme de vivacité, et, en tout cas de nouveauté.
Bien sûr, c'est la stratégie, vous le savez, qu'avec Maurice Ravignon, on a mis en place il y a une dizaine d'années maintenant, de nous efforcer d'accueillir de nouveaux emplois parce que effectivement, comme vous le soulignez à l'instant, pour chaque nouvel emploi, c'est souvent une famille qui est avec la personne qui vient travailler et par conséquent, ce sont des consommateurs, ce sont des gens qui louent des logements et puis qui vont consommer et participer au développement du territoire. C'est ce que nous souhaitons.
Deuxième bonne nouvelle, car il y a plusieurs bonnes nouvelles aujourd'hui avec vous, c'est l'acquisition de locaux Stellantis. De quoi s'agit-il? Vous dites acquisition, c'est Ardennes Métropole qui fait l'acquisition de ces locaux?
Alors, pas exactement. En fait, c'est la structure régionale qui est chargée d'acheter des locaux comme ça, qui sont vides, donc des friches industrielles, pour pouvoir les dépolluer, déconstruire éventuellement l'intérieur de bâtiments ou les bâtiments quand ils sont vêtus, ce qui n'est pas le cas ici, et puis ensuite les remettre sur le marché. Donc ils agissent par convention, c'est le PFGE, établissement public foncier du Grand Est, et donc il agit par convention avec Ardennes Métropole. Alors pourquoi on s'est intéressé à ça? D'abord parce que c'est un bâtiment industriel de 8000 m2 qui en a relativement peu dans la région et que nous ne souhaitons pas le voir occupé par une activité n'ayant que peu de main-d'œuvre. Je pense par exemple à du stockage, hein, puisque à ce moment-là, il y a peu. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait une activité industrielle ou artisanale qui s'y implante. On a déjà des pistes sérieuses et donc c'est la raison pour laquelle on acquiert ce bâtiment et qu'on acquiert aussi, il ne faut pas l'oublier, du terrain autour qui va nous permettre très probablement d'implanter un deuxième bâtiment. On aurait là une mini-zone industrielle à côté de Stellantis et c'est évidemment pour nous, de la réserve foncière qui va nous permettre d'accueillir de nouvelles activités industrielles et artisanales.
Ça prendra peut-être un certain temps, parce qu'il faut quand même du temps pour ces implantations, sans doute. Mais ça veut dire, Patrick Faustier, que vous nous annoncez aujourd'hui qu'avec ce bâtiment de 8000 m2, peut-être que dans les mois qui viennent, on pourra implanter une ou plusieurs activités.
Oui, c'est exactement notre objectif. On a bien sûr déjà, dès maintenant, des contacts et deux preneurs potentiels. Alors rien n'est fait, il ne faut pas annoncer ce qui n'est pas fait, mais par contre on a évidemment commencé dès maintenant à rechercher des preneurs, certains sont rapprochés de nous et donc on va continuer à travailler parce que vous avez raison, il faut aussi un peu de temps pour faire des travaux de génie civil, des travaux de déconstruction dont je parlais tout à l'heure, tout ça va prendre un peu de temps. L'idée c'est qu'au moment où les locaux seront prêts, dans 18 mois, 12 mois, 18 mois, nous ayons une activité à y implanter.
Ça veut dire aussi que vous n'attendez pas que les choses se passent en attendant que ça vienne du ciel, mais que vous prenez tous les éléments pour préparer éventuellement une venue. Hein. Ça, c'est très important.
Bien sûr, il faut surtout pas rester, comment dirais-je, passif et observateur dans ce domaine. Et c'est ce que je pense l'équipe a bien compris et on agit dans ce sens.
Pour terminer, on a du nouveau, et c'est tout à fait récent, à propos des rotondes de Mons. Pour nos amis de Reims et de la région, pouvez-vous nous rappeler ce que c'était que les rotondes et qu'est-ce qui va changer aujourd'hui avec ces rotondes dont on parle souvent?
Alors, les rotondes de Mons, c'est un établissement industriel qui appartient à la SNCF. C'était un ensemble d'ateliers et puis des rotondes qui permettent en fait de retourner les wagons ou les locomotives. Cet ensemble n'est plus utilisé aujourd'hui compte tenu de l'évolution du marché et du trafic de la SNCF. Par contre, il est classé patrimonialement et comme il n'y avait plus d'activité depuis 30 ou 40 ans, il était en train de se dégrader. Or, on cherchait un preneur, on l'a trouvé puisque un accord a été signé très récemment entre SNCF Immobilier, donc ce preneur qui est M. Deveau, le patron des ateliers de Vendeuvre, une entreprise du 19e siècle, mais très moderne quand même, qui se trouve dans l'Aube, qui va récupérer ses locaux, qui va les remettre en état et qui va y implanter une activité de fabrication de wagons spéciaux qui occupera une vingtaine de salariés.
Voilà de très bonnes nouvelles pour le territoire d'Ardenne Métropole, pour Charleville-Mézières. Et dans cette émission régionale, entendre que des Troyens viennent collaborer à Charleville-Mézières, eh bien, j'allais dire, on traverse presque toute l'ex-Champagne-Ardenne. Et c'est montrer la régionalisation de cette émission qui sert aussi à l'économie locale. 18h59, une minute pour vous dire au revoir, pour saluer Manon qui fait ressentir la fatigue avec son bâillement. Manon, on vous souhaite une très très bonne soirée.
Merci à vous également.
On vous retrouve peut-être dès demain à l'antenne, si vous restez avec nous jusqu'à 19h le soir.
Mais oui, je resterai avec plaisir.
Ah bien, tant mieux, le plaisir sera partagé. On salue toutes les équipes, notamment Fabrice Gironet, qui est à la réalisation de ce magazine régional. Et puis nous, on se retrouve demain, 18h10, pour un nouveau 18-19 en Champagne. Je vous rappelle, avant de se quitter, l'information principale de cette journée. Elle nous vient du diocèse de Châlons. Monseigneur François Touvet a été nommé évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon ce mardi par le pape François. Émission spéciale jeudi à 18h10. Deuxième partie d'émission. Avant ce temps, on se retrouve demain, mercredi, tout de suite. C'est l'information nationale qui prend le relais. Bonne soirée en compagnie des programmes de RCF.